Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ensemble pour notre émission avec notre évêque, diffusée sur Radio Lapourdie et sur Radio Présence en ce mois de février. Alors, Monseigneur Marc Ayé, on a différents sujets à aborder, très, très différents. On va commencer par les sujets d'Église universelle, puisque le pape va rencontrer bientôt le patriarche Kirill de Moscou. C'est le prévu donc le 12 février pour une rencontre historique entre le chef de l'Église catholique et celui de l'Église orthodoxe russe. Alors, est-ce que, j'imagine, vous vous réjouissez de ce rapprochement? Est-ce que vous croyez à un rapprochement possible entre ces deux églises?
Écoutez, c'est une grande et bonne nouvelle qui se prépare déjà depuis des décennies. Hein. Vous savez que c'est déjà Jean-Paul II, mais c'était difficile pour Jean-Paul II parce qu'il était polonais et on sortait à peine de cette crise de l'Union soviétique et donc des relations ancestrales entre les Russes et les Polonais. Donc ça ne facilitait pas les choses, même s'il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient. Et puis ensuite, il y a eu de grands pas avec Benoît XVI, qui a certainement facilité les choses, parce que les relations entre le Saint-Siège et Moscou se sont régularisées du temps de Benoît XVI, avec la nomination d'un nonce apostolique à Moscou, ce qui était déjà une très grande chose. Et je me souviens d'ailleurs que lorsque je suis allé en Russie moi-même il y a 2 ans, j'ai été accueilli au patriarcat orthodoxe de Moscou, dans leur hôtel, et avec une pièce mise à ma disposition pour célébrer la messe, et puis une rencontre aussi avec le métropolite Hilarion, et je voyais bien que les relations étaient quand même assez bonnes.
Lors de ces rencontres, vous arrivez à parler des choses qui divergent, ou
alors,
c'est juste
c'est
des
sûr,
rencontres amicales?
C'est sûr que, comme vous le remarquez, cette rencontre à Cuba en un lieu neutre, évidemment, hein, que ce serait encore difficile, je pense, pour le pape d'aller à Moscou et de rencontrer le patriarche Kirill. Le pape profite de son voyage en Amérique latine, au Mexique, et d'un voyage officiel du patriarche Kirill à Cuba pour faire une escale à La Havane et ainsi le rencontrer. Alors c'est sûr que c'est un pas de plus vers l'unité des chrétiens. Mais vous voyez aussi que ce qui se profile derrière et qui peut être d'ailleurs une pierre miliaire dans cette réunification hein, des orthodoxes et des catholiques, en particulier le patriarcat de Moscou, qui est le plus important patriarcat aujourd'hui, c'est la question surtout des chrétiens d'Orient. Vous voyez, il y a des questions de politique internationale qui sont cachées derrière. Et vous savez bien que l'engagement, non seulement du patriarcat de Moscou auprès des chrétiens orthodoxes d'Orient, mais aussi l'engagement de Vladimir Poutine hein, et de la Russie. Il est d'ailleurs très remarquable qu'au plus fort de la crise, où l'Europe occidentale, à cause sans doute des affaires d'Ukraine, en lien avec les États-Unis, diabolisait Vladimir Poutine et la Russie, au moment où moi-même, d'ailleurs, j'étais allé en Russie et j'avais été un peu sanctionné par la presse, y compris catholique, le pape, lui, de concert avec Vladimir Poutine, demandait qu'on n'intervienne pas en Syrie. Vous voyez, et je crois que c'est aussi ce qui aboutit, là. Ma rencontre avec le métropolite Hilarion m'avait beaucoup marqué, parce que l'un des points essentiels qu'il avait cité, c'était non seulement l'heureuse surprise de voir la levée en masse des familles et des jeunes par rapport au mariage pour tous. Donc c'était une autre image qui pouvait se faire ainsi de la France et de l'Europe, et sur les valeurs morales sur lesquelles nous avons des points communs avec les orthodoxes russes. Et puis c'était aussi le sort des chrétiens d'Orient. Et il avait été très attentif à me dire nous sommes très désagréablement surpris de voir comment la presse occidentale et les occidentaux semblent abandonner les chrétiens d'Orient. Donc je pense que ce sera à l'ordre du jour, comme ça l'a été annoncé d'ailleurs, hein, ce souci commun, qui est aussi un point vers l'unité des chrétiens, mais c'est un œcuménisme des œuvres, hein, un œcuménisme des valeurs morales, mais un œcuménisme aussi du martyr, parce que en Orient, en Syrie, en Irak, lorsqu'on est persécuté pour le Christ, on ne se demande pas s'ils sont catholiques, orthodoxes ou anglicans ou protestants, hein, ils sont tous du Christ, et donc c'est vraiment un lieu d'unité des chrétiens.
Alors justement, vous évoquez, Monseigneur, les chrétiens d'Orient, donc sujet qu'on peut évoquer avec la crise des migrants, la crise des chrétiens en Orient.
Vous êtes personnellement impliqué dans la défense et l'accueil des chrétiens d'Orient. Est-ce que vous encouragez les paroisses et les associations à continuer à cet accueil ?
Toujours, bien sûr. Je crois que le sort des chrétiens d'Orient, de Syrie en ce moment, qui sont plus sur la sellette, mais aussi d'Irak, demeure extrêmement préoccupant et réclame toujours de notre part une vive sollicitude, une vive attention. J'étais encore il y a quelques jours au téléphone avec le consul de France à Erbil, donc c'est en Irak, hein, au Kurdistan, que j'avais visité il y a un petit peu plus d'un an maintenant, et qui me disait combien la situation était très préoccupante aujourd'hui, que le découragement était tel que non seulement les chrétiens veulent partir en masse, mais aussi les Kurdes, parce qu'il y a une crise économique terrible qui sévit là-bas. Même les Peshmerga, qui sont les soldats, disons, de l'armée kurde pour essayer d'empêcher l'avancée de Daesh, désertent parce qu'ils ne sont même pas payés. Vous voyez, donc il y a des conditions de précarité dont on ne parle plus et qui sont terribles. En Syrie, en Alep, Alors, il faut savoir aussi que les médias occidentaux ne sont pas toujours très bien informés. L'évêque d'Alep, hein, Monseigneur Clément Jean Barre, qui était à Paris la semaine dernière pour la nuit des témoins organisée par l'aide d'Alexis en détresse, en marge de cette veillée de prière, a répondu aux questions des journalistes qui étaient là. Et il n'a pas mâché ses mots pour dire combien les Français s'étaient laissés berner par des sources d'informations qui ne sont pas justes et qui ne sont pas conformes à la réalité, disant d'ailleurs que l'équilibre des minorités religieuses, pas seulement des chrétiens, mais des autres minorités religieuses, et la paix sociale étaient liées à la permanence de Bachar al-Assad. Donc c'est une chose que l'on n'entend pas habituellement, même si, comme vous le savez, diplomatiquement, il est très curieux de voir que, de plus en plus, les Occidentaux ont fait volte-face et se rapprochent maintenant davantage, non seulement des Russes et des Iraniens, qui sont déjà présents sur le terrain et qui ont un peu faussé la politesse aux Occidentaux, mais également commencent à réengager des négociations diplomatiques avec le gouvernement en place. Donc la crise migratoire, elle est toujours là, même si vous remarquez que après les grands emballements du mois de septembre et du mois d'octobre, où Angela Merkel a provoqué ce gigantesque appel d'air, qui fait que sur ces milliers, dizaines de milliers de migrants, il n'y a plus seulement ceux qui fuient, comme on le croyait au départ, la guerre et la persécution, mais beaucoup de migrants économiques, finalement, hein, eh bien, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un discours qui est en train de faire machine arrière, non seulement chez les politiques, des chefs d'État, en particulier des pays de l'Europe de l'Est, mais également à la Commission européenne, comme on le voit aujourd'hui, et même les évêques de la Comessée. Le cardinal Marx, qui est le président de la Conférence épiscopale allemande et aussi maintenant le nouveau président de la Comessée, est en train de dire qu'il faut aussi mettre la charité, mais aussi la raison, et qu'on ne peut pas accueillir tous les migrants économiques qui frappent à la porte. Vous avez été aussi au courant, ça a été progressivement seulement porté à la connaissance du grand public, les exactions dans les lieux, on a accueilli beaucoup de migrants comme ça, qui sont venus dans cette vague migratoire, je ne suis pas en train de les montrer du doigt, mais c'est vrai quand même qu'il y a eu des débordements, des agressions sexuelles dans la nuit de la Saint-Sylvestre, qui restent dans tous les esprits, et qui quand même sont en train de changer un peu la donne par rapport à la crise migratoire.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, des pays comme la Suède qui ont fait voter une loi pour confisquer les biens des migrants à leur arrivée en vue de rembourser finalement le coût de leur séjour ?
Vous voyez, c'est dans la mesure où, au départ, les choses n'ont pas été assez raisonnées en justice par rapport à l'ordre social et au bien commun, on en vient à des dispositions qui sont en effet un peu iniques quand même et un peu injustes. Ça, il est évident que c'est pas bon, mais on voit comment on peut être poussé sans avoir assez réfléchi au départ et être parti dans une pseudo-générosité, eh bien, vers des fermetures qui deviennent pires que...
Voilà, mais les migrants, de toute façon, les réfugiés, ils vont venir. Qu'on dresse des murs ou comme ça, ils fuient leur pays.
Il ne s'agit pas de dresser des murs. Il s'agit de se dire... Accueillir les migrants, c'est très bien, et c'est évident qu'on doit accueillir l'étranger. C'est d'ailleurs une œuvre de miséricorde corporelle. En ce sens, la miséricorde, c'est assez important. Mais il faut aussi raison garder et se dire comment on les aide à rester chez eux. comment les aide à rester chez eux. Or, vous savez très bien que c'est là que le bât blesse. Et qu'on peut dire ce que l'on veut, mais les puissances et les États riches d'Occident ont tout fait pour empêcher ces gens de rester chez eux. Parce qu'ils recherchent là-bas leurs intérêts. Je le dis avec gravité, de manière peut-être un peu schématique, mais c'est ça aussi qu'il faut entendre. Et que l'on ne veut pas entendre. Alors on va ensuite se gargariser de savoir si on accueille bien les migrants. Oui, sans doute. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour leur permettre de rester sur leur terre? Parce que la plupart de ces migrants, et je le sais pour les chrétiens qui frappent à la porte de la France pour demander des visas, ils voudraient rester chez eux. Ils ne sont pas faits pour être exilés et éjectés de leur pays. Ils étaient heureux chez eux. Même si c'était pas toujours facile, et même si leur vie est moins enviable, parfois, économiquement en tout cas, que la nôtre.
Dans notre diocèse, il y a des migrants, des réfugiés qui ont été accueillis à Saint-Étienne-de-Baïgorry, au VVF, pour 3 mois. Ça s'appelle un centre de répit. Le Secours catholique était présent pour l'accueil de ces personnes. Est-ce que vous avez été leur rendre visite?
J'ai pas pu, de fait, leur rendre visite. C'est une opération qui a été, en effet, comme vous dites, moyen pendant quelques mois de leur permettre de sortir un peu de la jungle, de Calais. Je n'ai pas eu l'occasion de leur rendre visite pour ce moment-là, mais j'ai suivi ça, de fait, par la presse et par les prêtres de Galassie-Baïgorry.
Alors, on reste à l'international avec votre voyage au Togo. Monseigneur Ayet, vous êtes parti du 14 au 22 décembre au Togo avec l'abbé Barnetsch, délégué diocésain à la coopération missionnaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce voyage? Pourquoi est-ce que vous êtes allé au Togo et est-ce qu'il va y avoir des suites?
Alors, si vous voulez, le voyage d'abord est né d'une rencontre providentielle avec l'évêque de ce diocèse de Kara, qui est au nord du Togo, qui s'appelle Monseigneur Jacques Longa, que j'avais rencontré par hasard ou par providence lors d'un voyage à Cotonou en 2011, où j'avais participé avec la délégation des évêques français, à l'époque, à la visite apostolique de Benoît XVI au Bénin, dont je suis natif, comme vous le savez. Et il m'avait posé la question de savoir si on pouvait accueillir des prêtres de son diocèse pour faire de bonnes études dont il avait besoin dans son diocèse de Kara. Et moi, je lui avais proposé en effet de les inscrire à la faculté de théologie de Toulouse et de bénéficier ainsi d'une paroisse de notre diocèse où il pourrait à la fois rendre un service et puis bénéficier d'une aide pour pouvoir faire leurs études. Donc c'était une sorte de partenariat, comme nous l'avons fait avec d'autres diocèses d'Afrique ou de Pologne. Et puis, les années ont passé, nous avons eu un premier prêtre, avec lequel ça s'est extrêmement bien passé, à Pau, à la Sainte Famille, puis un deuxième prêtre, l'abbé Innocent, puis ensuite l'abbé Amédée, qui est arrivé maintenant, à la même place, et il est venu le visiter à la Pentecôte l'an dernier. Et il est venu me voir en m'invitant à venir célébrer les ordinations sacerdotales dans son diocèse en décembre pour célébrer le 50e anniversaire du décret Ad Gentes sur l'activité missionnaire du Concile Vatican II, demandant que ce soit un évêque français, puisqu'ils avaient été évangélisés par les Français, qui fasse pour cet anniversaire ces ordinations. Et en même temps, il est venu me soumettre un projet de partenariat, voire de jumelage. Ce que j'ai évidemment soumis à la coopération missionnaire, au service de la coopération missionnaire, et en proposant à l'abbé Barnetsch, qui est le délégué diocésain à la coopération missionnaire, eh bien, de nous rendre à cette invitation et d'étudier là-bas, au cours d'une visite pastorale de 8 jours, la faisabilité d'un partenariat. Ça a été donc une extrêmement belle rencontre avec de très nombreuses réalités, d'un diocèse de 700 000 habitants, où il y a 25% de catholiques, extrêmement vivants, 80-90 prêtres autochtones, 55 séminaristes, même s'ils sont dans des grands séminaires nationaux, des paroisses jeunes, des familles, une organisation extrêmement déjà poussée. Et puis, on a été confronté à cette église en pleine expansion, extrêmement jeune et dynamique, c'est le cas de le dire, et avec des défis de formation, des défis missionnaires, des défis de santé à relever. Et on a donc étudié sur quel domaine particulier on pourrait avoir un partenariat. Il est évident que ça ne peut pas être seulement un partenariat entre des évêques. Il faut que ce soit toutes les réalités du diocèse qui se sont intéressés. Et donc maintenant, bah, tout le travail est à faire avec l'abbé Barnetsch. On a bien l'intention, à partir d'une charte de partenariat qu'on va établir avec l'évêque de Cara, eh bien, comment l'enseignement catholique ou une des paroisses ou le secours catholique ou la formation permanente ou le séminaire peuvent établir des passerelles. Par exemple, déjà, l'année prochaine, on enverra un séminariste du diocèse en stage pendant un an dans le diocèse de Cara.
Ou la radio.
Ou la radio, de fait, on a visité, bien sûr, on a fait une émission de radio, on a rencontré la radio locale qui est Radio Maria, hein, internationale, mais de fait, on a évoqué aussi les possibilités d'un partenariat au niveau de la communication.
Le répondeur des auditeurs de Radio Lapourdi Iratia, 05 59 70 39 30. Radio Lapourdi Iratia propose un nouveau service à ses auditeurs. Le répondeur des auditeurs au 05 59 70 39 30. Vous pouvez dès à présent nous laisser un message pour annoncer un événement que vous organisez ou poser une question ou adresser une réflexion à Mgr Marc Ayet qui pourra vous répondre lors de son émission sur notre antenne. Le répondeur des auditeurs de Radio Lapourdi Iratia, 05 59 70 39 30.
Dans cette seconde partie, Mgr Ayet, nous allons aborder des événements de la vie diocésaine. Nous commençons par les visites pastorales que vous poursuivez. Vous étiez fin novembre à la Sainte Famille à Pau. Au mois de janvier, vous avez été dans la paroisse Saint-Blaise en Baïgoura-Ailette. Et là, vous allez effectuer une visite pastorale du 25 au 28 février sur la paroisse de Gand en Béarn. Alors, ces visites pastorales, comment se passent-elles ?
Elles continuent. J'arrive quand même presque au terme. Même si c'est un peu laborieux de terminer cette visite de l'ensemble des paroisses du diocèse. Je crois que j'en suis à la 62e, donc sur 69, ça finit par être quand même... On commence à voir le bout. C'est toujours une grande joie pour l'évêque que je suis de rencontrer la réalité du diocèse. La réalité du diocèse, ce sont d'abord des personnes. Ce sont des personnes qui sont des prêtres, qui sont des consacrés, qui sont des fidèles laïcs engagés dans divers domaines de la vie de notre Église et qui vivent leur foi au quotidien, qui essayent de construire des communautés chrétiennes accueillantes, qui attestent de leur foi et qui s'engagent dans la mission de l'Église. Et c'est ça. C'est le diocèse réel, finalement. Je pense que on peut dire beaucoup de choses sur le diocèse, on peut dire beaucoup de choses sur l'évêque, on peut dire beaucoup de choses sur les prêtres, on peut dire beaucoup de choses sur les mouvements. Mais la réalité, elle ne trompe pas. C'est dans la rencontre, et souvent dans la rencontre personnelle. Je dis souvent que dans l'évangile, ce qui est très frappant quand vous lisez l'évangile, c'est sans doute des descriptifs de Jésus au milieu de grandes foules. C'est aussi les attaques et les controverses des pharisiens, des hommes du temple, des publicains, des romains, des païens contre Jésus. Mais c'est surtout les rencontres personnelles que Jésus fait avec ses apôtres, avec ses disciples, au jour le jour, et où on touche le vrai de la vie chrétienne. On touche à l'intériorité, à la réalité de la foi, confrontée avec les responsabilités de la vie humaine. Je visite aussi beaucoup de réalités humaines, précisément, de rencontres avec des gens qui sont des chrétiens ou pas, mais aux prises avec les réalités de la vie d'aujourd'hui. Et ça reste pour moi très consolant, je dirais. Et je pense aussi que les communautés chrétiennes qui m'accueillent sont très consolées au sens le plus spirituel du terme, de ces visites pastorales, et qui me donne évidemment une vraie connaissance de l'ensemble de notre diocèse et qui m'aide avec mon conseil épiscopal, avec le conseil presbytéral, je pense aussi, à saisir les vrais défis de la mission.
Est-ce que les diocésains osent vous parler franchement quand ils ont des préoccupations ou est-ce que ça reste un petit peu formel ? Je sais qu'à Pau, vous avez réussi à avoir des échanges avec le conseil économique, par exemple, sur les questions que peuvent se poser les gens.
Oui, il y a toujours un moment où il y a des gens qui parlent effectivement très franchement. Mais vous savez, il faut toujours se dire que souvent, quand ce sont des choses, comme vous dites, j'imagine, des choses qui fâchent, C'est souvent à partir de rumeurs plus qu'à partir de réalité. Hein. C'est
justement le fait de les rencontrer, vous arrivez à discuter.
C'est vrai, tout à fait. Oui, oui. On a eu à Pau un très bon échange avec le conseil économique, mais aussi avec l'équipe d'animation paroissiale. Et c'était très franc et direct, mais très serein en même temps. Hein. Entre chrétiens, je pense qu'on est capable de se parler sans s'envoyer des choses à la figure, comme dans le monde.
Et donc ces visites servent à cela aussi.
Oui, servent à cela. Et puis vous avez beaucoup de gens, j'ai remarqué dans le Pays basque, je commence à connaître aussi un peu la culture basque et l'état d'esprit des Basques. Ils sont de fait, les Basques sont pudiques. Les Basques ne sont pas, rarement, ne se mettent en avant. Donc quelquefois, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des non-dits. Et je vois que c'est pas forcément toujours ce qu'on pense. Je reçois des courriers après les visites, de personnes qui n'avaient pas osé me dire combien ils avaient été heureuses de telle ou telle rencontre, de tel ou tel point d'attention qu'on avait partagé dans une réunion, mais qui me le disent par écrit en me disant c'est pas toujours facile de dire ce que l'on pense, d'exprimer nos convictions, mais merci pour ce que vous nous avez apporté, qui nous a donné à penser, etc. Voilà, donc il y a aussi ça, je crois.
Alors les 21 et 22 janvier, vous avez promulgué de nouvelles orientations pour la pastorale du deuil. Quelles sont-elles, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous donner ces nouvelles orientations ?
Alors c'est d'abord un travail qui se fait depuis un certain temps, qui est dans la suite d'un travail qui s'est mis en place depuis le synode de 1992, qui est déjà présent concrètement dans nos paroisses, c'est-à-dire des équipes de funérailles, qui permettent aux prêtres d'être davantage assistés, accompagnés de fidèles laïcs qui prennent en main une partie de cette pastorale, dans l'accueil des familles, dans la préparation de la célébration, dans l'animation de la célébration, dans la conduite au cimetière, dans l'accompagnement des familles, etc. Il y a beaucoup d'initiatives qui se sont déjà mises en place, et donc ces orientations ont essayé de fixer un cap pour tout le monde, mais à atteindre selon les lieux, en fonction des circonstances dans lesquelles sont plongés des prêtres qui parfois sont extrêmement seuls avec des obsèques à n'en plus finir. Donc on se dit bien qu'il y a un jour où il faudra aussi que dans cette participation des équipes funérailles, il puisse y avoir aussi la conduite de célébration d'obsèques sans prêtre. Ce qui n'est pas la loi et la norme aujourd'hui, car grâce à Dieu, il y a beaucoup de prêtres, mais il peut se faire qu'en certains endroits, quand un prêtre a 5 obsèques par semaine, ça peut faire beaucoup, et peut-être qu'il y a des moments où des laïcs pourront aussi, de manière pour l'instant assez exceptionnelle, conduire des célébrations d'obsèques. Voilà ce qu'on a essayé de baliser, si vous voulez, l'intervention des équipes de funérailles, qui exprime la visibilité de l'Église comme communauté, qui n'est pas seulement le prêtre qui pourrait être considéré par les gens qui viennent demander des obsèques pour leurs défunts et qui sont plus tellement participants de la vie ecclésiale, de considérer le prêtre comme un prestataire de service, un peu comme les pompes funèbres, et de voir que c'est une communauté qui les accueille dans leur deuil, qui les accompagne du début du parcours funéraire, c'est-à-dire de la maison du funérarium jusqu'au lieu du dernier repos, qui est le cimetière ou le columbarium.
Le 2 février, vous avez clôturé l'année de la vie consacrée dans la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, en présence de nombreux consacrés du diocèse. Alors, comment s'est passée cette journée ?
Alors, c'était une très belle journée. En effet, pour les Béarnais, c'était plus difficile d'être là, mais il y avait quand même une belle représentation, parce que c'était à Bayonne pour les de la Miséricorde, parce que je voulais que nous franchissions ensemble la porte sainte de la Miséricorde, la porte de la cathédrale, que nous avons ouverte le 13 décembre dernier, et parce que c'était non seulement la clôture de l'année de la vie consacrée, en cette journée mondiale de la vie consacrée, instituée par Jean-Paul II, et fixée au 2 février, jour de la présentation du Seigneur, mais c'était aussi le jubilé de la vie consacrée dans cette année sainte. Donc c'était extrêmement paisible, j'étais très très touché par ce flot de fidèles consacrés qui entraient par la porte sainte en chantant le chant du jubilé « Miséricordes sicut pater ». Ensuite je leur ai parlé de la miséricorde, et l'importance de la miséricorde dans notre, dans nos relations concrètes, notre vie quotidienne, dans, souvent dans des maisons de retraite ou dans nos communautés religieuses. Ensuite, on a exposé le Saint-Sacrement pendant une heure, il y a eu des confessions, les prêtres étaient dans les allées latérales, et les consacrés sont venus très paisiblement, en masse, faire cette démarche du sacrement de la réconciliation. Le pique-nique tiré du sac dans la salle Monteau, deux très beaux témoignages d'une sœur du bon pasteur sœur Marie-Paul de Pau et de, du père Beignat Oyenhardt, donc de, des Bétharamites. Et enfin, on a terminé par une superbe messe avec bénédiction des cierges de la chandeleur, comme on le dit pour rappeler justement ces chandelles, ces candelles, dans le cloître avant la, la messe d'action de grâce dans la cathédrale.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année de la vie consacrée ?
Ben, pour les consacrés, un encouragement. Un encouragement parce que ça a permis de rappeler l'importance fondamentale de la vie consacrée dans la vie de l'Église, hein, comme le Concile l'a rappelé au chapitre 6 de la Constitution Lumen Gentium, qui vient après le chapitre 5 sur la vocation à la sainteté, nous rappeler que les consacrés, tant contemplatifs qu'apostoliques, par les vœux de pauvreté, obéissance et chasteté parfaite, eh bien, nous rappellent à nous tous, prêtres et fidèles laïcs, notre vocation commune de baptiser à la sainteté.
Un mot pour terminer, Monseigneur, sur la journée des 4e, 3e, à laquelle vous étiez présent. C'était samedi 6 février à Salis-de-Béarn. 220 jeunes se sont retrouvés donc sur le thème « Avance au large ». Alors, c'était l'évangile du jour, un thème que vous avez pu exploiter avec eux. Qu'est-ce que vous leur avez dit sur ce thème d'avancer au large ?
Bon, d'abord, je dirais que l'atmosphère d'une journée comme celle-là est extrêmement aussi réconfortante et consolante, de voir comment ces jeunes entrent à plein dans la proposition qu'il leur est faite, qui est à la fois d'un partage de vie, d'activités très ludiques et sportives, auxquelles d'ailleurs j'ai participé, le baby-foot humain ou
voilà, on a des photos.
Telle ou telle activité très sympathique. Avec les animateurs qui étaient là, les séminaristes, il y a vraiment une belle atmosphère de joie. Et puis en même temps, des ateliers plus spirituels, plus réfléchis. Et puis une belle messe bien animée, au cours de laquelle je les ai invités à avancer au large, ne pas avoir peur des grandes perspectives, des grandes aventures, des grands idéaux, de rêver un peu. Une vie donnée, de ne pas avoir peur d'aller à la rencontre du Seigneur, c'est ça aussi, avancer au large et en eau profonde, quitter les petits rivages de notre vie ordinaire dans lesquels on peut avoir tendance à se replier et se refermer sur soi-même, et ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Et ils avaient d'ailleurs médité toute la journée, de manière aussi ludique, les œuvres de miséricorde qui sont des moyens d'aller au large, à la rencontre de Dieu et à la rencontre des autres.
Radio Lapourdi.
Nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Caillé. Nous allons aborder vos dernières prises de position par rapport à l'avortement et cet emballement médiatique qui s'en est suivi. Le 12 janvier dernier, vous avez écrit un tweet condamnant la politique de l'État français sur l'avortement. Vous en êtes expliqué dans une vidéo qui a été publiée sur le site diocésain. Pourquoi avoir évoqué Daesh dans cette histoire de l'avortement ?
Comme vous le savez, un tweet, c'est un genre littéraire un peu particulier qui vous contraint à délivrer un message qui peut en effet être diffusé rapidement et largement en 140 caractères, espace compris. C'est dire que c'est nécessairement raccourci. Hein. Mais j'ai voulu, si vous voulez, à travers cette comparaison entre le phénomène de l'avortement, qui est un vrai drame humain, et un drame social, qu'il ne faut pas se cacher, et le terrorisme aveugle, qui est encore dans tous les esprits après les attentats, en particulier du 13 novembre dernier, j'ai voulu attirer l'attention sur la vérité qui fait mal et qui blesse de ce que l'on appelle pudiquement l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse. Qui permettait et qui donnait l'occasion ensuite, eh bien peut-être d'ouvrir un débat qu'il faut bien le dire, et d'ailleurs ce déchaînement médiatique, politico-médiatique en est le signe, est confisqué et interdit. L'avortement est un sujet tabou. est un sujet qu'on ne peut pas aborder, qu'on ne veut pas aborder parce que derrière il y a de grosses souffrances. Et j'ai voulu justement certainement pas comparer les femmes qui recourent à l'IVG aux djihadistes, parce que celui qui l'a compris comme ça n'a pas vraiment lu mon tweet, c'est évidemment pas ça. Je n'ai pas condamné d'ailleurs le gouvernement, j'ai seulement attiré l'attention sur cette illisibilité, cette incohérence d'une politique gouvernementale qui à la fois, à juste titre, veut protéger les citoyens contre le terrorisme aveugle de Daesh et en même temps prône une campagne éhontée pour l'IVG par des moyens médiatiques et législatifs disproportionnés. Il faut quand même savoir que depuis plus d'un an, il y a eu des mesures qui se sont répétées comme jamais depuis la loi Veil, pour favoriser l'IVG en France. Et c'est pas parce qu'on va empêcher un évêque de parler, en l'occurrence, je n'ai pas de condamnation à donner d'aucune personne. Vous imaginez bien que quand la députée à l'Assemblée nationale dénonce l'attitude de l'évêque comme insupportable et ignoble,
Colette Capdevielle,
je l'entends et je prie pour elle. Parce que je ne suis pas du tout dans une espèce de controverse politique, mais je lui fais seulement remarquer, comme beaucoup d'autres lui ont fait remarquer depuis, que en régime de laïcité, de séparation des églises et de l'État, le prêtre et l'évêque que je suis est un citoyen à part entière, n'est pas un fonctionnaire de l'État et n'est pas tenu à un devoir de réserve. Il a le droit aussi de poser une parole et de donner son avis. Hein, comme d'autres évêques qui m'ont rejoint quand même dans cette tourmente à travers une tribune que nous avons signée dans le Figaro pour dire le droit à la vie pour tous, la vie et le droit à la vie dans la société d'aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu attirer l'attention sur ce drame, mais qui est d'abord le drame des femmes, contrairement à ce que l'on pense. Parce que moi je suis prêtre, ça fait 33 ans que je suis prêtre. Je rencontre beaucoup de gens dans l'accompagnement personnel, beaucoup de femmes, et je ne suis pas le seul, parce que je suis en contact avec beaucoup d'associations qui passent leur temps à faire de l'écoute des femmes. Et je sais quelle est la détresse que représente l'IVG dans la vie d'une femme, pour laquelle c'est toujours un échec. Et la plupart du temps, c'est dans une pression du milieu médical, une pression du milieu ambiant, de cette culture de mort, comme disait Saint Jean-Paul II, qu'elle en vient, contre son gré, à commettre ce qu'elle va comprendre très vite comme quelque chose d'irréparable. Si je vous disais, moi, que dans mon ministère, il m'est arrivé bien souvent de rencontrer des femmes bien après avoir commis l'IVG et d'être nécessairement du côté de la miséricorde et du pardon et certainement pas du côté du jugement et de la condamnation, ô combien. Je me souviens d'une femme qui n'allait pas à l'église depuis très longtemps, qui était contente que son petit-fils vienne à l'aumônerie, j'étais aumônier de lycée. Et sur son lit d'hôpital, alors qu'elle vivait sans doute ses derniers instants, elle a demandé à ce jeune qu'elle voulait voir l'aumônier. Et je suis venu la voir, parce qu'on avait eu un petit lien entre nous, la relation était bien passée. Et elle m'a dit, je vais vous confesser quelque chose et vous confier quelque chose que je porte depuis 50 ans. J'ai commis un avortement il y a 50 ans, ça me poursuit depuis ce temps-là. Et je vois que j'arrive aux portes de la mort et je voudrais le confier à quelqu'un. Ben voilà, elle me l'a confié et je pense que le Seigneur lui a donné cette guérison ultime qu'elle a peut-être recherchée par les moyens médicaux, les moyens psychologiques. C'est ça que j'ai voulu dire aussi. Puis j'ai voulu dire aussi que ce sont des vies à naître. J'ai rappelé des choses que le pape François dit, mais il semble que ça ne déchaîne pas autant de fureur médiatique quand il dit la simple pensée que des enfants ne verront pas le jour, victimes d'avortement, nous fait horreur. C'est le pape François qui a dit ça. Et aujourd'hui même, alors que je vous parle, on vient de connaître la clôture du congrès eucharistique mondial aux Philippines à Cebu, l'envoyé spécial du pape qui est le cardinal Beau, un pakistanais, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « les attaques contre la famille sont plus dangereuses que le terrorisme et la bombe atomique ». C'est l'envoyé spécial du pape qui dit ça. Donc je ne pense pas être à côté de la question lorsque j'attire l'attention sur la gravité de la violence qui est faite aux enfants. Vous savez comment ça se passe un avortement, qui est ignoré par le grand public, mais qui peut être bon de faire connaître le fœtus formé, qui est démantelé dans le ventre de sa mère par des moyens techniques que l'on connaît très bien, en particulier l'avortement par aspiration, qui est la plus employée. Pour moi, c'est terrible. Et je ne vois pas comment la fureur médiatique m'empêcherait de prendre la défense des plus petits, des plus fragiles, des plus vulnérables, et de dire qu'on ne peut pas les oublier dans notre société d'aujourd'hui.
quand vous avez fait ce tweet, vous pensiez que ça allait aller jusque-là, ce déferlement médiatique? Ou est-ce que finalement, quand vous tweetez, vous vous dites « je vais faire le buzz et c'est pour défendre l'évangile de la vie, plus on en parle, mieux c'est ».
Sûrement pas. Je, vous savez, là, vous me donneriez une intention stratégique et politique. Moi, je ne fais pas de politique. Il y a deux manières. Et toutes sont recevables. Et chacun a son appel. Et chacun sa vocation. Ou bien, on adopte une attitude politique pour faire connaître les gens, des choses, des réalités, et éveiller les consciences. Ou bien, on adopte une position prophétique. Ma position est prophétique. Je n'ai pas de stratégie. Je n'ai pas écrit ce tweet par une stratégie en me disant « je vais faire le buzz, ça va provoquer ». Vraiment, je ne pensais pas d'ailleurs que ça déclencherait une telle fureur qui pour moi est surtout une réaction de panique devant une réalité qui, de fait, perd du terrain. Parce que ils sont nombreux maintenant, les jeunes médecins, qui veulent plus faire d'avortement. Il y a 130 centres d'avortement qui ont fermé en France dans les 10 dernières années. Pour qu'on soit obligé maintenant par une loi de permettre à des sages-femmes dont la vocation est précisément d'aider une maman à mettre son enfant au jour, à prescrire des IVG médicamenteuses, il faut quand même se demander où est-ce qu'on en est. Pour qu'on permette à 100% le remboursement de l'avortement, depuis la première rencontre avec le médecin jusqu'à l'acte chirurgical de l'avortement, où est-on? Alors que pour une femme qui veut mettre son enfant à terme, elle ne bénéficie pas des mêmes avantages. Vous voyez, c'est très grave, ça ne se sait pas. Eh bien, si je prends des coups, moi je crois que c'est pas très grave à côté de la violence qui est faite aux enfants, à naître et aux femmes, c'est pas très grave, je suis prêt à les prendre les coups. J'ai trois phrases qui me viennent en idée quand j'essaie d'accomplir ma mission prophétique de défense de la vie. La première, c'est dans l'Évangile, nous l'avons entendu il n'y a pas très longtemps. Jésus revient à Nazareth. Il dit la vérité de manière prophétique. Ils étaient furieux contre lui. Ils le poussaient en dehors de la ville et ils voulaient le précipiter de l'escarpement de la falaise. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. La deuxième phrase que j'ai en tête, c'est celle du cardinal Ricard au début de notre visite à Limina en 2012, où il nous disait « l'évangélisation n'est pas qu'une joyeuse campagne de communication, c'est un temps d'épreuve, un combat spirituel où il faut s'attendre à prendre des coups. Il y a le martyr du sang, il y a le martyr médiatique, il y a le martyr devant l'opinion publique et il y a le martyr de la communion dans une église traversée par des tensions redoutables. » Ben, tout cela me parle, m'éclaire, éclaire mon chemin. Je ne suis pas dans la condamnation. La troisième phrase, c'est « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, souhaitez du bien à ceux qui vous calomnient. » Ben, j'en suis là. Moi, je ne veux à personne. Les réactions qui sont faites contre moi, je les prends comme elles viennent et j'essaie de d'enraciner ça dans la prière. Et puis, je pense que c'est ma mission prophétique d'évêque que de dire la vérité sur l'évangile de la vie.
Alors, pourquoi les autres évêques se taisent? Vous avez signé une tribune dans le Figaro avec 6 autres évêques, donc vous êtes 7. On s'attendait peut-être à une réaction de la Conférence des évêques de France. Il y a eu un tweet du porte-parole, je crois.
Oui.
Pourquoi les autres évêques se taisent sur cette question
de l'avortement? Alors, il y a eu un tweet, en effet, du porte-parole de la Conférence des évêques de France qui n'est pas anodin, justement à cette période-là, au moment où moi-même j'étais pas mal secoué. Moi, j'ai pas à juger la manière dont les uns ou les autres disent. D'abord, ils ne se taisent pas forcément, parce que vous ne savez pas ce qu'ils disent dans leur diocèse. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que je dis dans mon diocèse. Le buzz, il atteint que quelques-uns. Vous savez, il n'atteint pas la grande majorité des gens. Quand vous avez Goliath qui fait une pétition pour mon départ, ben vous savez ce que c'est Goliath. Goliath, c'est un magazine qui ne peut pas complètement se considérer comme catholique, par rapport auquel la Conférence des évêques de France a officiellement pris ses distances depuis bien longtemps et lui avoir intenté même un procès au moment de son premier trombinoscope, hein, parce qu'il avait utilisé les photos de l'annuaire catholique de France. Bon. Goliath n'est pas un lieu d'église. D'ailleurs, leur pétition, elle est ouverte aux croyants, non-croyants, athées qui demandent la démission de l'évêque. Et au comble de paradoxe, voilà des gens qui passent leur temps à considérer qu'il n'y a pas d'hiérarchie dans l'église et qu'il faut refuser toute hiérarchie pour être dans une complète démocratisation et qui ne trouvent pas mieux que d'aller demander à celui qui est au sommet de la hiérarchie la démission d'un évêque. Vous comprenez bien que tout ça ne m'impressionne pas fondamentalement.
Pour terminer justement sur cette pétition, est-ce que vous comprenez les réactions des gens? Si on regarde en fait les commentaires des gens qui signent la pétition, on a l'impression qu'ils ont été en fait choqués plus par l'évocation de Daesh que par l'avortement, puisque vous avez d'ailleurs fait un autre tweet sur l'avortement dont personne ne parle.
Mais qui est aussi cité. Non, je crois que les réactions, la plupart des réactions, en tout cas de ceux qui diffusent cette pétition de Golias, parce que Golias en soi-même, ça n'a pas beaucoup de diffusion, comme vous le savez. Hein. Golias, il y a peu de temps, fustigeait le futur pape François sur ses positions par rapport au mariage gay, ce qui est assez symptomatique. Hein. Ce sont les médias locaux hein, qui ont donné un peu de diffusion à cette pétition de Golias, et finalement, dans les commentaires, je les ai pas tous lus parce que j'ai autre chose à faire, franchement, mais je vois surtout que je suis attaqué sur le fond, beaucoup plus que sur la forme, sur le fond de l'avortement, qui est essentiellement considéré comme un droit fondamental, comme un droit des femmes, comme l'a dit Madame Marisol Touraine, à disposer de leur corps. Et moi, je répète à l'envi qu'il s'agit de disposer du corps de leur enfant, et non pas seulement de leur corps.
Le répondeur des auditeurs de Radio Lapourdi, Iratia, 05 59 70 39 30. Radio Lapourdi, Iratia propose un nouveau service à ses auditeurs. Le répondeur des auditeurs au 05 59 70 39 30. Vous pouvez dès à présent nous laisser un message pour annoncer un événement que vous organisez ou poser une question ou adresser une réflexion à Mgr Marc Ayet qui pourra vous répondre lors de son émission sur notre antenne. Le répondeur des auditeurs de Radio Lapourdi Iratia, 05 59 70 39 30.
Dans cette dernière partie, Mgr Ayet, nous allons parler du carême, de l'année de la miséricorde. Vous avez voulu que la porte de la miséricorde soit à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne et vous invitez les paroisses à venir en pèlerinage. Est-ce que beaucoup de paroisses sont venues pour l'instant à la cathédrale ?
Alors ça, il faudrait le demander surtout au recteur de la cathédrale, n'est-ce pas ? Parce que moi, comme vous le savez, je sillonne pas mal le diocèse, donc je ne suis pas en permanence à Bayonne. Mais je sais quand même qu'il y a plusieurs paroisses qui se sont inscrites et qui ont choisi des dates pour faire en effet un pèlerinage paroissial à la cathédrale au cours de cette année de la miséricorde. Je pense que pendant le carême, le temps pascal, ce seront peut-être les temps plus privilégiés pour ce genre de démarche.
Vous encouragez donc les laïcs à venir passer cette porte sainte ?
Oui, je les encourage parce que c'est une facilité que le pape François a voulu donner aux fidèles catholiques en leur disant ben, vous n'avez pas seulement les portes saintes ouvertes à Rome pour faire cette démarche jubilaire, mais vous avez une ou plusieurs portes saintes parfois ouvertes dans votre diocèse. Donc ben, profitez-en hein, pour faire cette démarche jubilaire de la miséricorde.
Peut-être qu'il est bon de rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui veulent venir à la cathédrale, il y a quand même aussi les indulgences qui sont associées à cette démarche.
Alors on ne dit plus les indulgences hein, depuis le concile, on dit l'indulgence, sur lequel d'ailleurs le pape François a fait un très beau développement dans sa lettre d'indiction sur le visage de la miséricorde. Hein. L'indulgence, bah, c'est donc le dernier mot de la miséricorde de Dieu qui nous remène aux peines, si vous voulez, dues au péché, sachant que la séparation d'avec Dieu, qui est la cause du péché grave, eh bien, nous est remise par la miséricorde gratuite de Dieu, c'est-à-dire par son pardon. Et pour obtenir cette indulgence, c'est-à-dire pour être encore plus dans la miséricorde de Dieu et être encore plus débarrassé de tout ce qui freine un peu notre ouverture à Dieu et aux autres, dont nous nous éloignons précisément par le péché, eh bien, il y a cette démarche jubilaire qui nous est proposée, donc franchir symboliquement la porte de la miséricorde en reconnaissant que nous sommes pécheurs, mais avec la confiance que derrière la porte, il y a un Père qui nous accueille et qui nous prend dans ses bras, quoi que nous ayons fait, et donc qui va entraîner une démarche spirituelle, sacramentelle, donc s'approcher de l'Eucharistie, du sacrement de pénitence et de réconciliation, pour faire l'expérience de cet amour de Dieu qui nous pardonne quand bien même et aussi loin que nous puissions nous éloigner de lui et des autres, et puis prendre la résolution d'une œuvre de miséricorde. Et je crois que c'est ça la grande pédagogie de cette année sainte, voulue par le Saint-Père, c'est de nous rappeler les œuvres de miséricorde corporelle, les œuvres de miséricorde spirituelle qui appartiennent à la tradition, et pour les approfondir dans notre vie, pour se dire, je viens chercher la miséricorde du Seigneur, je sais que le Seigneur est infiniment miséricordieux, eh bien, je dois être aussi miséricordieux comme le Père. Hein, la grande devise de cette année jubilaire, misericordes sicut pater en latin, miséricordieux comme le Père, c'est Jésus qui nous le dit, hein, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, et donc ça doit atteindre le concret de notre vie. Et puis nous aurons évidemment le souci de prier aux intentions du Saint-Père, puisque c'est le pape, le successeur de Pierre, qui a le pouvoir de remettre les péchés, hein, en dernière analyse, comme on le voit dans l'Évangile, et puis de remettre toutes les peines qui sont dues aux péchés, voilà, au nom du Christ.
On peut d'ailleurs inciter les auditeurs, pour connaître les œuvres de miséricorde, à écouter vos petites catéchèses que vous avez, que vous enregistrez toutes les semaines, qu'on peut trouver sur le site internet du diocèse. Alors, autre activité, autre projet prévu pour cette année de la miséricorde, ce sont les 24 heures pour le Seigneur. Alors, le pape a proposé que ce soit fait le 5 et 6 mars. Est-ce que ça sera fait ces jours-ci dans notre diocèse, où chaque paroisse prévoit en fait ces 24 heures?
Voilà, c'est plus exactement, je crois que c'est du 4 au 5 mars, hein, du vendredi au samedi, qui précède le, je pense, quatrième dimanche de carême. Voilà. Oui, bien sûr, on a proposé que ça se fasse dans une église par doyenné, quand c'est possible. Et je crois qu'il y a beaucoup de doyennés qui sont organisés pour cette démarche qui est un peu insolite par rapport à la vie ordinaire de nos paroisses, de laisser l'église ouverte pendant 24 heures, y compris la nuit, donc, et de proposer des animations, des temps de prière, d'adoration, peut-être de conférences si le possible, de célébration, et puis de proposer aussi de manière non-stop quasiment la possibilité de recourir au sacrement de la pénitence et de la réconciliation, donc que les prêtres vont se relayer, les prêtres d'un doyenné vont se relayer dans ces lieux où se tiendront ces 24 heures pour le Seigneur, pour offrir la démarche du sacrement de réconciliation.
Vous-même, vous serez présent à la cathédrale ?
Bien sûr, je serai présent à la cathédrale, et j'espère pendant la nuit en particulier, parce que c'est un moment tout à fait propice pour la prière et pour la rencontre avec le Seigneur.
Monseigneur Haillé, comment va-t-on fêter la Saint-Léon cette année ?
Alors, à cause des disponibilités de nos invités, pas surprise maintenant, mais on a été obligé à Bayonne de déplacer la Saint-Léon au 13 mars. Et nous accueillerons le 13 mars l'archevêque chaldéen de Kirkouk, donc en Irak, qui est Monseigneur Youssif Thomas Mirkis, et qui va venir témoigner de la vie au quotidien des chrétiens d'Orient dans un pays où, comme on l'a déjà dit, il ne fait pas bon vivre en chrétien. Et donc il va venir nous attirer notre attention, sensibiliser les fidèles de notre diocèse à ce grand drame des chrétiens d'Orient aujourd'hui persécutés pour leur foi.
Vous avez un autre invité prévu la semaine d'avant, je crois.
Alors, la semaine d'avant, puisqu'il n'a pas pu venir pour ce jour-là, finalement, après avoir dit qu'il pourrait, mais je comprends que pour eux, c'est quand même extrêmement difficile. Ce sera donc Mgr Nicolas Antiba, qui lui est archevêque melkite, donc catholique melkite, en Syrie, dans un diocèse qui s'appelle Rabab, et avec lequel nous sommes déjà en lien par une petite association qui a été créée à Biarritz et qui a essayé d'établir un petit jumelage spirituel et qui va venir nous parler des chrétiens d'Orient, mais du côté de la Syrie, qui, comme on le disait déjà précédemment, est vraiment sur la sellette dans l'actualité présente.
Il y aura aussi une messe d'action de grâce pour les 30 ans d'épiscopat de votre prédécesseur.
Oui, m'apercevant que mon prédécesseur allait célébrer ses 30 ans d'épiscopat, normalement, je crois que c'est le 2 mars, il a été ordonné le 2 mars 1986.
Donc, Mgr Pierre Moller.
Mgr Pierre Moller, donc, et je l'ai invité à venir célébrer une messe d'action de grâce le dimanche 6 mars à 19h à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, où je pense qu'il a été ordonné évêque il y a 30 ans. Voilà.
On va terminer cette émission, Monseigneur, avec l'évocation des catéchumènes, puisque le carême et Pâques, c'est aussi l'occasion de baptiser des adultes, des recommençants ou des personnes qui n'ont jamais été baptisées, qui découvrent la foi. Ils vont prononcer leur appel décisif très bientôt. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que vous voulez dire à cette occasion de ces nouveaux catéchumènes qui entrent dans l'Église?
Voilà, je dois dire que c'est une grande consolation aussi pour notre Église diocésaine, que ces catéchumènes adultes qui frappent à la porte de l'Église en venant d'horizons très divers, mais souvent très éloignés de l'Église, et que c'est donc c'est une grande consolation que ces hommes et ces femmes, relativement jeunes, 30, 40 ans, puis même plus jeunes, il y a quelques étudiants et lycéens, qui viennent demander le baptême. Je n'ai pas pu m'empêcher, au soir de la petite récollection que nous avons eue à Belloc, pour préparer ces appels décisifs, après avoir reçu individuellement chacun de ces catéchumènes adultes, d'écrire un tweet dans lequel je disais « merveilleuse rencontre personnelle avec les catéchumènes adultes ». Et je redisais cette parole de Romano Guardini, qui est un grand théologien allemand du XXe siècle, « l'Église se réveille dans les âmes ». C'est vrai que c'est là, encore une fois, que nous touchons la réalité de la vie de l'Église à laquelle nous aspirons tous par la grâce de notre baptême. Alors, les appels décisifs, c'est le premier dimanche de carême, comme le prévoit le rituel d'initiation chrétienne des adultes, et qui consiste à déclarer, d'une certaine manière, ces catéchumènes qui vont être baptisés au terme du carême, au cours de la vigile pascale, dans leur communauté chrétienne, paroissiale, eh bien, de les déclarer élus. Ils sont élus par Dieu. Ils ne sont plus catéchumènes, ils sont élus. Ils ont été appelés. C'est le Seigneur qui les appelle de manière décisive, et ils acceptent d'être appelés au baptême de manière officielle. Et donc leur nom va être inscrit dans un registre qui rappelle symboliquement le livre de vie dans lequel le nom des enfants de Dieu sont inscrits.
Merci beaucoup, Monseigneur Marc Caillé, d'avoir répondu à nos questions, et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés patiemment. Merci.
Shema Israël, Audi Israël, écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Caillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.